Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Clap, dernière partie, place à nos critiques des films sortis en DVD, VOD et sur vos plateformes. Pour débattre aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, ça va bien?
Mais oui, ravi de vous retrouver.
Mais oui, nous aussi.
En plus, on a un beau programme. On va parler du film d'animation Les Mitchell versus les Machines qui arrive sur Netflix. Deux terribles jungles, c'est sur OCS avec notamment Catherine Deneuve et Vincent De Dienne. On débattra aussi du testostéroné, c'est le moins qu'on puisse dire, sans aucun remords sur Prime Video. Et du tout juste oscarisé, Judas and the Black Messiah sur My Canal.
Testostéroné aussi.
Un petit peu, aussi. Mais moins quand même. On commence donc avec Les Mitchell contre les machines, c'est un film d'animation qui arrive sur Netflix.
Lançons l'opération.
Les derniers humains doivent être par ici, quelque part.
On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous.
Message à tous les robots. Capturez absolument tous les habitants de cette planète.
Courage ! Et voilà, vous avez compris. C'est donc un film d'animation qui devait d'ailleurs sortir en salle sous le titre Déconnecté. Il débarque sur Netflix. Phil Lord, Chris Miller à la production. Lord doit tempête de boulettes géantes. Spider-Man New Generation. Et donc on suit les Mitchell. C'est cette famille que vous entendiez, famille américaine. Assez caricatural, vous avez la fille qui filme son chien déguisé pour mettre les vidéos sur YouTube, le fils passionné de dinosaures, un peu étrange il faut bien le dire, et les deux parents complètement dépassés et qui décident d'accompagner leur fille lorsqu'elle doit partir à l'université, de l'accompagner dans une sorte de road trip, sauf que, vous avez entendu, ils vont devoir affronter des robots guidés par une sorte d'intelligence artificielle et qui doivent enlever tous les humains. Est-ce que les Mitchell vont sauver les humains? C'est toute la question. Marilyn Letertre.
Je ne sais pas s'ils vont sauver les humains, mais en tout cas, moi, ils m'ont beaucoup amusée.
Ça
il y a très
pas.
très longtemps que je ne m'étais pas marrée à ce point devant un film d'animation. Je ne sais pas à quoi carburent les scénaristes et les réals, mais visiblement, ça a l'air assez costaud.
Vous voulez la même chose?
J'avais pas besoin, je crois que je suis naturellement survoltée. C'est donc survoltée, c'est complètement barré. Ça nous interroge évidemment sur nos rapports aux écrans, aux réseaux sociaux, voilà. Mais sans morale, parce qu'à la fois ça évoque bien tous les travers, mais aussi tous les avantages que ça peut comporter. Et surtout, ça va à 100 à l'heure, la mise en scène est géniale. Il y a plein de références pour les enfants aussi, sur ce qu'ils aiment aujourd'hui, les petites vidéos YouTube avec les chats, enfin ce genre de petites choses. Et moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Voilà, j'ai passé un excellent moment.
Vous aimez les vidéos avec les chats aussi en
oui. J'adore les vidéos
Fabrice
avec les chats.
Fabrice, les Mitchell contre les machines.
Bah, écoutez, j'adore aussi.
Bon.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film comme ça. On est chez Tex Avery, ouais. On est un peu chez les Marx Brothers par moment. C'est de l'animation qui fait parfois de l'image réelle, ce que je trouve absolument génial. C'est vrai qu'il y a... Et je me disais en voyant le film, c'est intéressant comme on voit Pixar en ce moment, qui reste excellent dans un niveau de haute qualité, mais qui est dans une certaine norme. Mm-hmm. Et là, même au niveau de l'animation, de l'image, du ouais. discours, ça part quand même dans tous les sens. Hein. C'est parfois assez hard d'ailleurs. Voilà, je trouve que l'inventivité, la vivacité, le renouveau du cinéma d'animation jeune, speedé et très très drôle, eh ben c'est là qu'on le trouve, c'est chez Sony qu'on le trouve. Et après Spider-Man, bon, il y a Phil Lord et Miller qui sont
oui,
derrière. Et après
faire.
Spider-Man, on sait qu'ils savent faire. Mm-hmm. C'est vraiment une super bonne surprise. Peut-être un chouïa long, 1h54 pour un film d'animation, ça se répète un peu par moment. Mais vraiment, quel pied, excusez-moi.
Ouais, et le dessin aussi est super
le
original.
Le dessin est superbe.
C'est,
ah bah oui.
On voit pas ça partout.
On est loin
c'est
d'animation
absolument.
Un peu standardisé ouais. Pixar. Ouais.
Et ben voilà, les Mitchell contre les machines. C'est sur Netflix. Malheureusement, ça devait sortir en salle. C'est sur Netflix directement. Je vais casser un peu l'ambiance, je sens, avec Terrible Jungle. Pourtant, au casting prestigieux, Vincent De Dienne, Catherine Deneuve et Jonathan Cohen, ça arrive sur OCS.
Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer.
Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les...
Autopies.
Les Autopies. Donc, vous savez où il est.
Nous allons monter une petite expédition dans la jungle.
Chef, dites quelque chose.
Ah, ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars.
Non, ouais.
Nous sommes à la recherche de ce jeune homme.
C'est pas du tout Elliot, ça.
C'est qui, ça, alors?
Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ressemblait pas à ça?
Voilà, Vincent De Dienne, qui est donc un jeune anthropologue, qui part dans la jungle amazonienne à la rencontre, vous l'avez entendu, du peuple Autopie. Et il va tomber sur une tribu un peu étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, menée par Alice Belaïdi. Il va disparaître, sa mère, étouffante, jouée par Catherine Deneuve, va donc partir à sa recherche, aidée, enfin c'est ce qu'elle espérait en tout cas, par un gendarme complètement baltringue qui est joué par Jonathan Cohen et qui se trompe notamment au début, vous l'avez entendu dans l'extrait, de photo. Fabrice Leclerc, Terrible Jungle, on l'avait découvert, je me rappelle, à l'Alpe d'Huez il y a quelques temps maintenant.
Très bonne idée, souvent mal exploitée. Je pense que Catherine Deneuve doit arrêter de tourner dans les films parce qu'elle est Catherine Deneuve. On dirait quasiment une pub pour Le Bon Coin. Non, elle n'a rien à faire là. Elle ne sert à rien. Voilà, c'est juste un gimmick pour dire qu'il y a Catherine Deneuve dans un film. Après, moi, j'aime beaucoup Vincent Dodienne, parce que je trouve qu'il est pétri de talent et qui résiste sur tout le film à ce personnage assez herbie, en plus qui va partir dans un délire assez incontrôlé. Jonathan Cohen, pareil. Mais c'est vrai que le film arrive un an et demi après, donc on a vu la flamme depuis Jonathan Cohen est devenu une star. Vincent Dodienne a continué à monter. Donc voilà, le film n'est plus perçu de la même façon. Après, moi, je trouve qu'il y a une envie de faire de l'humour très décalé, un peu hard, un peu.
Il y a quelques moments drôles. Il y a des moments
très drôles. Mais l'écriture ne suit pas sur la longueur. Voilà. Et ça part dans le grand n'importe quoi. Et là, pour le coup, dans les substances illicites, je donne la parole
à Marilyn. La transition est toute trouvée. Terrible voilà. Jungle.
Vous qui êtes spécialiste.
Absolument, j'ai dit que je n'avais pas besoin, moi. La tisane me suffit. Écoutez, alors, moi, j'ai trouvé que ça démarrait plutôt bien. Ouais. Je trouve que la première partie fonctionne. Et puis, très vite, comme le disait Fabrice, ça s'étiole et on s'ennuie. On s'ennuie parce que c'est les mêmes gags. Parce que moi aussi, j'aime bien Jonathan Cohen. Mais il faudrait qu'il arrête de faire tout le temps le même rôle. Le rôle de baltringue, d'abruti qui se prend au sérieux. Il le fait très bien, c'est sûr. Mais il ne fait que ça à longueur de film. Et moi, au bout d'un moment, ça me gave. J'ai envie de voir quelqu'un d'autre le faire ou lui, de le voir jouer autre chose. En revanche, je suis d'accord aussi avec Fabrice. Je trouve que, heureusement qu'il y a Vincent Dodienne, ouais, qui est bourré de talent, qui, à mon avis, ne va faire que monter au cinéma et qui, clairement, tient le film jusqu'au bout. Enfin, c'est lui qui fait qu'on a envie de tenir un petit peu. Mais franchement, c'est très inégal et il y a quelques moments drôles, mais dans l'ensemble, on s'ennuie.
C'est dommage, il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Hein, mais bon, voilà, c'est pas totalement ça.
Terrible Jungle que vous retrouvez donc sur OCS. On change encore d'ambiance, on part sur Prime Video et cette fois, c'est un film qui s'appelle Sans aucun remords. Ça veut tout dire avec Michael B. Jordan.
Voilà ce qu'on sait. L'adjudant-chef Kelly est le troisième membre à avoir été attaqué. Les trois tireurs sont morts. Sa femme a été également tuée.
Ils n'ont plus qu'à espérer qu'ils ne survivent pas.
Pourquoi ?
C'est de loin l'homme le plus dangereux et le plus efficace qu'on ait sur le terrain.
Et voilà, sauf qu'évidemment, vous imaginez bien...
La bande-annonce est une caricature.
Elle dit tout, vous imaginez bien qu'il va survivre, ce marine des forces spéciales américaines. Il a été attaqué chez lui, il a tué trois hommes surarmés, mais il a quand même été blessé. Sa femme a été abattue, mais il va donc survivre et vouloir se venger tout en découvrant une grande conspiration internationale. Marilyn ?
C'est magique. Que dire ? Que dire donc, en fait, tout est dit dans la bande-annonce.
Oui, mais attention, tout
donc,
est dit, on sait à quoi s'attendre.
Dit,
mais
rien n'est dit.
Mais il y a un public pour ces films-là.
Il y a certes un public, mais il y a d'autres films qui sont beaucoup mieux faits dans le genre.
Oui.
Je trouve que les scènes d'action sont assez mollassonnes, se répètent. Michael B. Jordan, alors oui, il est sexy, on l'aime bien, mais il est charismatique le garçon, donc il faudrait qu'il choisisse des films où il peut exploiter ce charisme. Parce que là, c'est la cata. Et en termes de dialogue, mais mon Dieu que c'est pauvre.
Vous l'avez regardé en VF ou en VO ?
Je ne l'ai eu qu'en VF.
Ah, voilà.
Donc j'ai dû le regarder en VF.
On va en reparler d'ailleurs.
Hélas, voilà. J'aurais préféré le voir en VO, en effet, mais soyons totalement honnêtes, je ne crois pas que ça aurait changé grand-chose. Le scénario est ce qu'il est. Et puis alors, donc ils ont mis une nana, hein, évidemment, qui est un peu la leaduse du groupe de militaires, là, parce que c'est bien de mettre une nana. Ouais, mais c'est bien, mais n'en faites pas un accessoire, sinon ça sert à rien. Donc non, moi j'ai trouvé ça...
Ou un garçon manqué, en l'occurrence.
Alors, un garçon manqué et un accessoire. Parce que quand même, sur le terrain, c'est lui qui lui dit « Hey, suis-moi, parce que c'est quand même moi qui vais te sauver les fesses.
Oui. »
Donc voilà, non, je trouve ça très problématique, très, très pénible, et je me suis beaucoup ennuyée.
Bon, voilà.
Même sous drogue.
Fabrice.
Même sans drogue, même sous drogue, même
défendez un petit peu sans aucun remords.
Je ne vais pas le défendre, pourquoi ? Parce que, alors, à l'inverse de Marilyn, moi, Michael B. Jordan, je le trouve assez incolore et inodore dans ce film-là, en version d'une courgette qui joue un militaire américain. Je suis content de revoir Jamie Bell. Je suis absolument terrifié par la version française qui a été faite. On dirait un saut brésilien. Il faut savoir que quand on fait une synchronisation en français, les lèvres doivent correspondre à ce qu'on dit. Enfin, c'est un peu la base, je pense.
C'est l'idée.
Après, voilà, c'est gros comme une maison. C'est quand même adapté de Jack Clancy. C'est le premier film en tant que producteur de Michael...
De Tom Clancy.
Non,
du roman Tom Clancy.
Ouais. Premier film en tant que producteur de Michael B. Jordan. Donc, il
choisit bien.
Vraiment. Voilà, on sait qui est le traître au bout de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on a compris, c'est gros comme une maison.
De toute façon, ils l'ont cassé pour ça.
Il y a un public pour ça. En revanche, seule chose, je trouve que la mise en scène, et moi je ne suis pas du tout d'accord avec Marine, j'ai été absolument bluffé par cette mise en scène qui est faite par un réalisateur italien qui avait fait la série Gomorra. Et je trouve que c'est honteusement bien troussé, terriblement
mal
écrit, mais honteusement bien
troussé. Alors moi, je trouve qu'on n'y voit rien du tout, que c'est illisible.
On ne perd pas de temps.
Il y a quand même quelques scènes brillantes.
Sans aucun remords sur Prime Video, on ne perd pas de temps parce que je veux absolument qu'on parle du tout fraîchement oscarisé Judas and the Black Messiah qui arrive sur MyCanal, signé Chaka King.
Vous allez prendre 18 mois pour vol de voiture et 5 ans pour usurpation d'identité d'un agent fédéral. Sauf si je vous laisse repartir.
Vous tuerez peut-être un libérateur, vous ne tuerez pas la libération. Vous tuerez peut-être un révolutionnaire, vous ne tuerez pas la révolution. Et vous tuerez peut-être un combattant de la liberté, mais vous ne tuerez jamais ce combat. Je dis, je suis un révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire.
Voilà pour ce film qui a donc offert à Daniel Kaluuya l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. On l'avait découvert dans Get Out. Alors, il joue Fred Hampton, le leader des Black Panthers, qui va finir, vous le savez, assassiné par la police en 1969. Sauf que l'angle choisi, vous l'avez peut-être compris en écoutant l'extrait, c'est de mettre finalement ce destin en parallèle avec le regard d'un autre homme noir qui va infiltrer les Black Panthers, qui va être contraint d'infiltrer les Black Panthers, policier au FBI. C'est une histoire vraie. C'est cet homme qui va permettre l'assassinat d'Hampton et il va se suicider, je crois, une vingtaine d'années plus tard. Fabrice.
C'est un film très intéressant parce que ça montre l'histoire politique cachée de l'Amérique, c'est-à-dire cette folie du FBI qui a été une réalité pendant des dizaines et des dizaines d'années sous Hoover. Et là, on voit comment le FBI essaye d'essayer de contrôler les Black Panthers. Ils y arriveront pas vraiment, mais ils croyaient encore à cette époque-là. Et c'est politiquement et socialement là-dessus, et car c'est aussi un polar, et c'est ce qui est très intéressant, que c'est aussi un polar. Le film est très intéressant. Après, moi, j'ai regardé le film avec intérêt. Le film est extrêmement bien joué, bien écrit. Je suis tout à fait d'accord. J'ai juste quelque chose, mais qui est quelque chose de factuel, c'est que au fur et à mesure, entre le The Trial of Chicago 7, Mia Rainey, j'ai l'impression qu'Hollywood est en train de me servir chaque semaine un pan de l'histoire noire américaine, parce qu'il faut être inclusif aujourd'hui et il faut représenter les minorités. C'est très intéressant. Je suis un peu, voilà, je trouve que c'est un peu trop.
Petite alors, overdose.
Le film arrive en dernier. C'est quand même un très beau film à voir.
Marilyn, Judas and the Black Messiah.
Je suis complètement d'accord avec Fabrice.
Mais comme d'habitude,
aujourd'hui.
Comme quasiment, toujours. non, mais voilà, j'ai aussi l'impression de l'avoir vu 150 fois. C'est très intéressant, c'est très bien produit, c'est très bien joué. Mais en même temps, on me raconte la même histoire, effectivement, pour les raisons qu'a évoqué Fabrice depuis un an. Et elle est très intéressante. Mais encore faut-il savoir aussi diversifier son offre quand on fait du cinéma. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il ne sortira pas en salle chez nous. C'est qu'il y a eu beaucoup de films avant. Enfin, je ne sais pas quelle est la raison, mais parce que là, il est directement sur Canal+.
Canal directement, avec le racheté les droits.
Mais voilà, après, effectivement, c'est un film qu'on regarde avec intérêt et plaisir. C'est pas du tout un biopic. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux gens, parce que déjà, le garçon est mort à 20 ans, donc c'est pas un biopic, parce que la vie a été courte. C'est plutôt un film d'infiltration, avec toutes les étapes du genre.
C'est
l'angle est bien choisi. Et c'est bien fait, voilà, c'est bien fait. C'est un bon film.
Il y a d'autres films qui arrivent, hein, comme ça, et en salle, un film sur Billie Holiday, notamment, qui raconte encore une nouvelle fois la
et
même chose.
Et une histoire d'infiltration aussi, d'ailleurs.
Et une histoire d'infiltration, voilà.
Qui s'appelle Billie Holiday, une affaire d'État. On a beaucoup parlé de Billie Holiday en tout début d'émission, parce qu'on parlait des biopics musicaux. Autant dire que la boucle est bouclée. Merci beaucoup Fabrice Leclerc, merci beaucoup Marilyn Letertre. On a parlé de Judas and the Black Messiah, c'est sur MyCanal, de Sans aucun remords sur Prime Video, de Terrible Jungle sur OCS et des Mitchell contre les machines sur Netflix. Bientôt, nous reparlerons des films qui sortent en salle, puisque ça y est les amis,
et oui,
on sait que les salles
enfin
vont ouvrir le 19 mai. Merci beaucoup d'être venu une nouvelle fois dans le studio de Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, émission que vous retrouvez évidemment en podcast. Et pour la diffusion en direct, rendez-vous 14h-15h tous les samedis sur Europe 1. Europe 1.